regard. Alors, les affiches indiquaient « Regard sur le Nouveau Testament ». Le Nouveau Testament est vaste, et le temps pour s'y consacrer n'est pas toujours là. Alors, je me suis dit qu'il valait mieux réduire la matière pour proposer quelque chose de stimulant ce soir pour nous. Et comme nous sommes dans l'année où nous lisons l'Évangile selon saint Marc, je me suis dit, on va regarder ce thème « Paradis et bonheur » dans l'Évangile selon Marc. Ce sera une façon agréable de procéder. Alors bien sûr, on connaît l'Évangile, et puis on pourrait se demander, mais pourra-t-on trouver quelque chose de nouveau dans l'Évangile de Marc, puisqu'on l'a quand même bien en tête. Alors, ayant été moi-même surpris par mes découvertes, je vais vous laisser juger par vous-même de la pertinence du propos. Alors, je vous propose tout simplement un programme très simple en trois parties pour ce soir. Une douche froide, un savon et enfin un rinçage, on verra comment. Hein. Voilà, donc c'est un programme de carême, c'est un petit peu intensif. Voilà. Donc j'espère que vous avez prévu tout ce qu'il fallait. Alors je voudrais commencer par une douche froide, donc. Pourtant, tout pourrait bien commencer dans l'Évangile selon Marc. Les premiers mots, au commencement de l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Normalement, les choses sont quand même plutôt joyeuses. Puis, peu après, on a l'épisode du baptême de Jésus. Et c'est Dieu le Père qui dit à Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Ouf, tout va bien. Mais la suite nous fait rapidement déchanter. Alors on pourrait se demander d'ailleurs déjà, je me suis demandé déjà en disant, tiens, alors, puisqu'on a parlé la semaine dernière du terme heureux, y a-t-il le terme heureux dans l'Évangile selon Marc? Eh bien non. 13 fois dans l'Évangile selon Matthieu, 15 fois dans celui de Luc, 0 fois dans l'Évangile de Marc. Donc, pas heureux chez Marc. Agréable, plaisir non plus. Le champ lexical de la joie est intéressant. On le trouve à trois endroits. Dans la parabole du semeur, il y a ceux qui accueillent la parole avec joie. Mais c'est ceux qui n'ont pas de racines, et donc ils meurent, ils ne donnent pas de fruits. Il y a une autre forme de joie, c'est celle des grands prêtres qui se réjouissent quand Judas vient leur proposer de leur livrer Jésus. Et puis il y a une troisième occurrence encore de la joie dans l'évangile de Marc. Ce sont les soldats romains qui se moquent de Jésus en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Et le verbe qui est utilisé pour saluer couramment en grec, c'est « Réjouis-toi ». On connaît dans le « Je vous salue Marie ». L'ange dit à Marie « Réjouis-toi Marie ». Et bien là, c'est pas « Réjouis-toi Marie », c'est « Salut, roi des Juifs !» par moquerie. Donc on voit que la joie est tout de suite teintée d'une forme de suspicion dans l'évangile selon Marc. Alors, oublions la joie. On a oublié d'être heureux, on a oublié la joie. On essaie de continuer notre exploration. Alors je me suis dit aussi qu'il y a quelque chose qu'on retrouve par exemple dans les psaumes, le psaume 22, avec l'idée du banquet. Le banquet, signe de joie, de bonheur qui rassemble tout le monde. Alors je me suis dit peut-être que le banquet va nous consoler un petit peu. Alors il y a un banquet dans l'évangile selon Marc. C'est le banquet qu'Hérode fait pour son anniversaire. Il y a un autre banquet, c'est celui des scribes, là où il cherche les places d'honneur pour les banquets. Voilà. Alors, Hérode, on nous dit que Hérode aussi prend du plaisir à écouter Jean le Baptiste. Et puis que la fille d'Hérodiade plaît beaucoup à Hérode. Donc, le langage ce langage du plaisir est encore une fois teinté de suspicion dans l'évangile de Marc. D'ailleurs, le royaume de Dieu lui-même n'est jamais comparé à un banquet. On trouve cette image chez Matthieu, chez Luc, pas chez Marc. Pas de bonheur banquet. Il y a quand même une image chez Marc, c'est celle de l'époux. Donc les épousailles, on imagine la fête des noces. Alors Jésus se compare une fois dans l'évangile selon Marc, au deuxième chapitre, comme l'époux. Pour exprimer que les amis de l'époux ne jeûnent pas, pour le moment. Mais Jésus ajoute tout de suite, « Mais quand l'époux leur sera enlevé, alors là, ils jeûneront. » Donc finalement, la joie sera de courte durée, puisque après, il n'y aura plus de joie. Alors, après avoir découvert tout ça, je m'en ouvre à notre doyen. Je dis, ben voilà mes premières découvertes ou déconvenues, comme on veut. Il me dit, tu peux encore changer de sujet, puisque de toute façon, on n'a pas annoncé précisément de quoi il s'agit. Alors, par paresse, sans doute, vu que le travail était commencé, je me suis dit, oh, je vais peut-être continuer. Et puis surtout parce que j'étais intrigué. Je me suis dit, est-ce qu'on peut quand même passer ces premières déconvenues, élargir un petit peu le spectre de la recherche, pour essayer de voir un petit peu ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors je me suis intéressé plutôt aux termes qui exprimaient le bon ou le bien dans l'Évangile. Alors là aussi, le constat est sévère. Il y a cet homme qui vient voir Jésus en lui disant « Bon maître !» Et Jésus répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Merci, voilà. Ou bien encore Jésus qui dit « Il aurait mieux valu que cet homme-là ne laisse pas » en parlant de Judas. Donc ce qui est bon, ça commence un peu difficile. Alors je me dis quand même, il y a un élément dans l'Évangile qui est toujours joyeux, qui est toujours bon, qui est peut-être source de bonheur, c'est la résurrection du Christ. Eh bien, après la résurrection, dans l'Évangile selon Marc, les femmes ne disent rien parce qu'elles ont peur. Et puis si on continue, les disciples s'affligent et pleurent, et ils refusent de croire. Donc pour le bonheur, on passera aussi. Alors finalement, que reste-t-il quand on est passé avec ce rabot sévère? Pas grand-chose finalement. On se rend compte que s'il y a au moins quelque chose ou quelqu'un de bon dans l'Évangile selon Marc, c'est Jésus. Jésus lui-même, celui qu'on acclame au rameau comme celui qui vient au nom du Seigneur. On demande qu'il soit béni par Dieu, béni soit son règne, béni soit le règne qui vient de notre Père David. Et Jésus est appelé même le Fils du béni dans sa passion. Voilà, alors finalement, résultat de la douche froide, très peu d'émotions exprimées par les personnages. Le vocabulaire habituellement associé à la joie et à la fête est quasiment absent de l'évangile de Marc. Et ces rares occurrences sont toujours connotées négativement. Seul finalement Jésus échappe à ce climat de noirceur généralisée. Alors pourquoi donc, on pourrait se dire, c'est pas un évangile ce truc? Alors un premier élément de réponse pourrait nous être donné par le contexte de rédaction de l'Évangile. On sait que Marc écrit son Évangile très probablement à la communauté chrétienne de Rome, au moment de la grande persécution de l'empereur Néron. On est dans les années 60 après Jésus-Christ, et cette persécution, vous le savez, a conduit à la mort de Pierre et de Paul après l'incendie de Rome. Alors l'ambiance n'est vraiment pas à la fête dans cette communauté, on imagine. Et les chrétiens se trouvent bien en difficulté pour annoncer l'évangile à leurs contemporains. Ils risquent leur vie, tout simplement. Alors on pourrait se dire finalement que malgré de lamentations sur l'état de l'Église aujourd'hui, notre situation peut être un peu plus facile aujourd'hui qu'à cette époque. Alors, cette noirceur, elle peut s'entendre de cette façon-là. Mais, je me suis dit, on va pas s'arrêter à la douche froide. Essayons de creuser un peu plus ce thème de la béatitude quand même, sans renoncer à cette rudesse que nous avons découvert chez Marc. Alors je vous propose donc de passer au programme de lavage avec le savon, cette fois-ci. Parce que le savon va être un petit peu rude aussi. Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit quand même. Donc j'ai parlé de la parabole du semeur. Celui qui accueille avec joie, c'est celui qui n'a pas de racines et qui ne porte pas de fruits. Mais il y a quand même quelque chose de bon dans cette parabole, c'est la bonne terre. La bonne terre qui donne du fruit 30 pour 1, 60 pour 1, voire 100 pour 1. Mais cette bonne terre, le Christ n'explique pas vraiment pourquoi elle est bonne. C'est ce qui nous intéresse quand même. Et donc pourquoi cette terre est bonne, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle concerne ceux qui écoutent la parole, qui l'accueillent et donc qui portent du fruit. Alors il s'agirait peut-être d'écouter encore la parole et d'essayer de l'accueillir nous-mêmes. Alors, que dit cette parole? Et je vous propose d'aller voir au chapitre 9 de l'Évangile selon Marc ce qui se passe. Chapitre 9, ça nous concerne particulièrement puisque le chapitre 9 commence avec le récit de la transfiguration qui est l'Évangile d'aujourd'hui. Et puis il se poursuit par une guérison, des annonces de la passion, et puis cette invitation étonnante Si ta main est pour toi une occasion de péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que de t'en aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de péché, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Et si ton œil est pour toi une occasion de péché, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, où leur ver ne meurt pas, où le feu ne s'éteint pas. Alors voilà le programme. Hein, on parlait... alors il n'y a pas de paradis chez Marc, mais en tout cas il y a un royaume de Dieu, et pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne s'agit pas d'être enrichi, mais au contraire de se dépouiller, même du nécessaire. Le bonheur finalement, il va être atteint par celui qui parvient à se dépouiller. On peut remarquer quand même en passant qu'il s'agit de se dépouiller d'un membre qu'on a toujours en double, hein. Que ce soit la main, le pied ou l'œil, il en reste quand même un. Donc ça atténue peut-être un peu la violence du savonnage. Alors voilà ce qui est bon, ce qu'on traduit par « il vaut mieux pour toi entrer borgne », c'est « il est bon pour toi d'entrer dans la vie, il est bon pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, même borgne, même estropie ». Et puis un peu plus loin, dans le même passage, il y a une autre chose qui est bonne, c'est le sel. Et le Christ nous invite à avoir du sel en nous-mêmes. Alors voilà l'invitation qui résonne. Ayez du sel en vous-même. Alors on est chapitre 9. Et puis si on continue notre lecture dans ce milieu de l'évangile de Marc, on arrive au chapitre 10. Et au verset 17, nous connaissons sans doute ce passage. Un homme qui accourt et qui tombe à genoux devant Jésus et qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» La question nous concerne vraiment puisque il y a à la fois la bonté et puis il y a cette question de la vie éternelle, on pourrait dire du paradis derrière. Et donc Jésus, on l'a entendu tout à l'heure, dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Alors il y a déjà une forme de renvoi. C'est étonnant cette façon dont Jésus refuse le qualificatif. Alors qu'on a vu que, globalement, c'est le seul qui est bon dans l'évangile de Marc, mais là, même Jésus refuse cet adjectif de bonté pour lui. En tout cas, il le réserve à un autre, il le réserve à Dieu. Finalement, seul Dieu est bon. Et alors, on pourrait dire, mais alors Jésus n'est pas bon. Alors, il y a sans doute, et c'est le père Baudot qui nous avait parlé l'année dernière, qui le dit très bien dans un commentaire de ce passage-là, une façon pour Jésus d'éviter le face-à-face entre cet homme et lui et de renvoyer à une troisième personne qui est Dieu le Père. Et c'est une vertu vraiment chez Jésus. Il esquive sans cesse dans l'évangile de Marc cette confrontation pour être celui qui guérit ou celui qui fournit la réponse. Il renvoie toujours à un autre, il renvoie à la loi et là il renvoie à son Père. Alors c'est une belle façon, une belle humilité qui est la part de Jésus de toujours renvoyer à un autre. Donc là, Jésus renvoie à Dieu le Père. Et puis ensuite, dans sa discussion avec le jeune homme, il va renvoyer aux commandements. Tu connais les commandements, eh bien, accomplis-les. Et le jeune homme dit, mais moi, depuis ma jeunesse, j'ai accompli tous ces commandements, tout va bien. Alors finalement, ce que l'on comprend dans ce passage-là, puisque Jésus ensuite regarde l'homme, se met à l'aimer, et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et suis-moi. Et le jeune homme s'en va tout triste. Encore un constat d'échec. Au fond, et le père Baudot le dit bien, il y a quelque chose de difficile dans cette invitation à se dépouiller. On en fait tous l'expérience, le dépouillement est pour nous quelque chose de particulièrement difficile. Et le père Baudot dit finalement, seul Dieu est bon, puisque seul Dieu est capable de se déposséder de tout. Dieu seul est capable de renoncer à ce qu'il est lui-même. Et c'est exactement le mouvement de l'incarnation, comme on l'entend dans la lettre aux Philippiens, hein, le Christ qui était de condition divine n'a pas jugé bon de retenir pour lui le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Première dépossession, il passe de la vie de fils de Dieu à la vie d'homme. Et puis deuxième dépossession, c'est celle de la croix, où il accepte la mort de la croix. Alors seul Dieu est bon, seul Dieu est capable de renoncer à se déposséder à ce point-là. Le jeune homme, lui, n'y arrivera pas. Alors on continue le chapitre. De plus en plus déconcertés, les disciples se demandent entre eux, mais alors qui peut être sauvé? Jésus les regarde et dit, pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Alors il y a une forme de remise totale, c'est-à-dire que si on voit ce mouvement, hein, personne n'est bon, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Le Christ lui-même renvoie toujours à Dieu. Dans ce mouvement de dépouillement, même lui-même, le Christ se dépouille même de la bonté pour la réserver à Dieu, et il invite vraiment à entrer dans ce mouvement de dépouillement avec lui. Parce que Dieu seul pourra donner le salut, Dieu seul est la source du bonheur, Dieu seul pourra sauver. Alors pour illustrer cette conviction-là, il y a, je crois, deux images dans l'évangile de Marc qui illustrent vraiment ce côté un peu savant que nous prenons. C'est l'image de l'enfant et l'image de la petite graine pour illustrer cette primauté du dépouillement. Au chapitre 10, donc dans ce même chapitre un peu avant, Jésus bénit les enfants que les disciples voulaient mettre à l'écart en leur disant que le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent aux enfants, c'est-à-dire insignifiance, non-existence sociale, dépendance radicale à un autre. Voilà le modèle de celui qui est heureux, celui qui est apte au royaume. Et puis la deuxième image, on la connaît aussi, c'est celle de la petite graine. Alors la petite graine, on la trouve un peu avant, au chapitre 4 de l'évangile de Marc. Il y a deux images de paraboles qui évoquent cette petite graine. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Et ensuite, il y a la deuxième parabole qui suit, qui est celle de la graine de moutarde qu'on connaît bien aussi. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Alors ces deux images, elles illustrent cette primauté faite au dépouillement. Petite graine ou petit enfant, croissance mystérieuse qui est bien donnée par Dieu, qui est don de Dieu, qui n'est pas fruit de l'effort ou du travail de l'homme, mais qui donne un fruit abondant, ces longues branches dans lesquelles les oiseaux du ciel viennent nicher. Alors on le voit à travers cet éloge de la petitesse et du dépouillement, qui serait la voie du royaume, donc la voie du bonheur, Marc nous présente vraiment le Christ comme le prototype, le type même de celui qui est bon, le seul à pouvoir vraiment être bon. Mais si Jésus est bienheureux, seule source de joie pour le Père, comme on entendra tout à l'heure dans l'Évangile, ce n'est pas parce qu'il est rempli de qualités, mais c'est au contraire parce qu'il est capable de se défaire de tout. Ce n'est pas un homme plein, mais c'est un homme vide, quelque part. Alors on a eu la douche froide, on a eu le savon, cette invitation vraiment au dépouillement radical. Alors il s'agirait de voir qu'est-ce qu'on a pour le rinçage dans l'Évangile. Alors je vous propose une méditation sur deux passages de l'Évangile de Marc qui ouvriraient ou qui élargiraient la perspective. Parce que pour le moment, on voit qu'en dehors de Jésus, c'est bien difficile de trouver quelqu'un qui correspond à cette exigence de bonheur qu'est celle de l'Évangile. Alors je voudrais vous emmener un petit peu avant la passion de Jésus, on est déjà au début de la passion, au chapitre 14 de l'Évangile, avec le passage qu'on appelle celui de l'onction de Béthanie. Alors peut-être je vais vous le rappeler, comme ça ils nous l'auront dans l'oreille. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre, contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, laissez-la, Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Alors, cette conclusion est quand même très, très, très étonnante. Cette insistance que le Christ a par rapport à l'acte de cette femme. D'ailleurs, nous, souvent, on ne connaît pas, enfin, ce passage, on le connaît un peu, mais partout où l'Évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Parce que proprement, dans l'Évangile de Marc, cette femme est la seule à poser un acte qui est un acte bon. C'est la seule qui a fait une bonne œuvre, en fait, en dehors de Jésus. Alors, c'est d'autant plus exceptionnel qu'on peut s'intéresser, mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, qui mérite un tel éloge de la part du Christ? Dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Alors, elle a fait une bonne œuvre, cette femme, en versant un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Et Jésus dit, ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. C'est-à-dire qu'elle a pris tout ce qui était en son pouvoir, elle l'a ordonné, elle l'a mise au service du Christ. 300 pièces d'argent, grosse somme quand même, qu'elle utilise simplement pour oindre la tête de Jésus. Alors, bien sûr, cette onction de parfum sur la tête de Jésus, elle est très évocatrice pour nous, dans le signe d'une consécration. Ceux qui reçoivent l'onction, ce sont les rois, les prophètes. Voilà que Jésus reçoit une forme d'onction, une onction parfumée, qui nous rappelle bien sûr celle du baptême. Et puis Jésus donne le sens de cet acte de cette femme. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. C'est-à-dire que l'épreuve est là, la souffrance sera là, la mort est déjà en vue, mais elle a fait ce qui était une bonne œuvre, c'est-à-dire qu'elle a parfumé, de son amour, de sa tendresse, de tout le bien qu'elle pouvait faire, ce geste d'abandon total du Christ dans le don de lui-même, dans ce dépouillement de lui-même sur la croix. Voilà que cette femme, elle a senti, en tout cas le Christ donne cette interprétation à son geste, elle a senti que ce qu'elle pouvait faire, elle, ce qui était en son pouvoir, c'était d'accompagner le dépouillement de Jésus à travers cette profusion de parfums. Alors voilà le seul acte bon qu'un autre que Jésus pose dans l'Évangile. Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Alors si ça s'arrêtait là, ce serait déjà très beau. Mais le Christ poursuit en disant « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. » Et alors, c'est très intéressant cette façon dont Jésus nous permet de passer du soin que l'on peut avoir pour lui, pour sa personne, et combien nous essayons, tâchons d'aimer le Christ, de passer de cet amour du Christ à cet amour des autres. Profiter de la présence du Christ pour l'aimer, mais avoir cette possibilité de faire du bien aussi à tous ceux qui sont autour de nous, les pauvres. Et voilà que donc que le service de Jésus ne vient pas s'opposer à celui des pauvres, comme les disciples pourraient le penser, en disant « bah oui, 300 pièces d'argent, pourquoi les gaspiller là, autant les utiliser ailleurs ?» Là que Jésus permet de faire le lien, c'est-à-dire de ne pas opposer ce qu'on pourrait appeler le culte d'un côté, culte de Jésus-Christ, et puis la charité de l'autre, mais au contraire, de les unir. Il y a un temps pour chaque chose. Alors voilà, je crois que c'est assez beau pour nous, parce que si le Christ le dit, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire, eh bien, alors moi j'ai envie ce soir de raconter en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire, pour que nous puissions chacun essayer de nous inspirer du geste de cette femme, qui est une anonyme, on ne sait pas qui c'est. Elle n'a pas d'identité, elle n'a pas de nom, elle n'a pas d'histoire. Elle entre dans la scène, elle en sort aussitôt. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas son histoire. Mais elle a passé et elle a fait le bien. Et elle nous invite à faire de même. Alors c'est le premier passage que je voulais vous inviter et qui indique une forme de lumière. En tout cas, je trouve une belle lumière qui est en introduction des épisodes de la Passion du Christ, qui vont alterner vraiment ces moments d'obscurité profonde avec des moments de grâce toute particulière. Puis le deuxième passage que je voudrais proposer à votre méditation, il se trouve cette fois-ci au premier chapitre de l'Évangile de Marc. C'est Jésus est arrivé à Capharnaüm. Il va dans la synagogue de Capharnaüm. On le sait, il y a une guérison qui a lieu dans la synagogue de Capharnaüm. Puis, il va avec Simon-Pierre dans la maison de Simon-Pierre. La belle-mère de Simon-Pierre est malade. Il guérit la belle-mère de Simon-Pierre qui les sert à table. Et puis, le soir arrive. Donc, nous sommes le soir du sabbat. Et l'évangile poursuit. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que, là aussi, je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et parcourant toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Alors, on pourrait se dire, oui, très bien, mais je crois qu'il y a quelque chose d'assez singulier, en fait, dans ce passage. Si on fait le rapport avec ce que j'ai dit autour de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus dans l'évangile de Marc, elle est marquée par la peur, par ce refus de parler. Les femmes au tombeau ne disent rien parce qu'elles ont peur. Et puis, il y a tous ces disciples qui ont du mal à croire. Alors, le matin de Pâques n'est pas un matin joyeux, en tout cas, dans l'évangile de Marc, mais il y a ce passage qui est tout au début de l'évangile, qui est, comme il me semble, un pendant à ce matin de Pâques. Puisque si on a bien suivi, le soir venu après le coucher du soleil, nous sommes au soir du jour du sabbat, donc le soir du samedi. Alors après le coucher du soleil, ce n'est plus le sabbat chez les juifs, donc tout le monde a le droit de marcher librement, puisque vous savez que le jour du sabbat, les juifs ont une distance maximale à faire, ils ne peuvent pas marcher plus d'un certain nombre de pas. Alors une fois que le coucher du soleil est passé, ils retrouvent leur liberté, et donc aussitôt on se précipite vers Jésus pour pouvoir recevoir de lui la guérison. Et donc on nous dit la ville entière se presse à la porte pour pouvoir être guérie par Jésus. Et donc c'est le seul cas dans l'évangile où on a une guérison nocturne. D'habitude Jésus guérit pendant la journée, mais là c'est pendant la nuit que Jésus guérit. Et si on fait le parallèle avec Pâques, cette nuit du samedi au dimanche, c'est la nuit pendant laquelle nous fêtons la résurrection. C'est-à-dire dans cette obscurité de la nuit du samedi au dimanche, là où Jésus ressuscite, Jésus soigne beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulse beaucoup de démons. Voilà l'œuvre de salut de Jésus qui est opérée au milieu de la nuit, au cœur de la nuit. Et donc, si on continue, le lendemain matin, Jésus se lève, peut-être métaphore de la résurrection, bien avant l'aube, à l'heure où les femmes se rendent au tombeau, Jésus se lève. Il sort et se rend dans un endroit désert. Il y a une sorte d'ailleurs dans lequel Jésus se rend. Et là, il prie, donc il retrouve la relation avec son Père. Et alors, on voit que les disciples, et ceux qui étaient, donc Simon et ceux qui se trouvaient avec lui, partent à sa recherche, bien sûr, ils se disent « Mais où est passé Jésus ?» Et finalement, cette recherche qu'il n'y a pas dans l'épisode de la résurrection, où on cherche le corps de Jésus, on peut entendre dans d'autres évangiles, Marie-Madeleine qui cherche où on a mis Jésus, eh bien finalement on le trouve là, tout au début, dans ce beau parallèle, tout le monde te cherche, il le trouve Jésus, il le trouve, tout le monde te cherche. Alors que cherche-t-il? Sans doute un guérisseur, il cherche sans doute celui qui apporte le réconfort, et Jésus encore une fois échappe à cette prise. Il ne veut pas être le guérisseur de la ville de Capharnaüm, il ne veut pas s'installer à son compte comme médecin, mais il doit aller ailleurs, dans les villages voisins, avec un objectif, proclamer l'Évangile. Le verbe évangéliser est absent, de l'évangile de Marc, mais l'expression annoncer l'évangile se retrouve plusieurs fois, particulièrement ici. C'est là aussi que je proclame l'évangile. Alors, on constate que le mouvement de la résurrection invite à aller ailleurs, à ne pas rester sur ce lieu de la résurrection, mais d'aller ailleurs, proclamer l'évangile. Et c'est pour ça que Jésus est sorti. Alors, ça résonne, si on reprend le contexte de Marc, comme une invitation au courage pour les chrétiens de Rome, apeurés par la persécution. Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que l'évangile là aussi soit proclamé. N'ayez pas peur, allez-y. Comme si Marc avait intégré le climat de difficile, de dureté du contexte des gens de Rome, mais en même temps, ces chrétiens de Rome sont invités à aller ailleurs aussi. Et si l'on prend pour nous, parce que ça c'est peut-être bon pour les chrétiens de Rome, il y a quelque chose qui est bon pour nous également, c'est que on réalise que le bonheur ne va pas résider dans une forme de consommation un peu statique de la présence de Jésus ou des biens qu'il pourrait donner, qui sont de l'ordre de la guérison, de l'enseignement. Mais il y a quelque chose de proprement chrétien dans cette résolution plutôt à suivre l'exemple de Jésus, l'exemple de sa vie, l'exemple du don de soi. Jésus donne de lui-même, on le sait, en donnant son corps sur la croix, mais il donne de lui-même aussi par la parole, par sa prédication, par son œuvre de guérison. Et alors finalement, on voit que si Jésus est peut-être le seul bon, même si une femme est capable d'un acte bon, notre bonheur de chrétien va résider dans le fait de se mettre à la suite de Jésus, donc se mettre en route quelque part, si on poursuit cette métaphore-là, se mettre en route à la suite de Jésus et vivre avec lui cet exemple, ce processus de dépouillement de soi, ce processus de don de soi qui mène jusqu'au don de sa vie ultimement, mais don de la parole, don du geste qui sauve. Et dans la suite de l'évangile, on verra que les disciples seront envoyés eux-mêmes en mission pour précisément faire cela, guérir au nom du Christ. Alors je crois que c'est cette leçon que l'évangile de Marc nous propose. Je ne sais pas du coup si le rinçage est un peu plus chaud que le reste, mais quand même, la douche est sans doute froide. Le savonnage est vigoureux dans cette exhortation au dépouillement de soi. Mais je crois que la dynamique dans laquelle cela nous inscrit est vraiment puissante. Alors on pourrait essayer de conclure en reprenant ou en paraphrasant plutôt le psaume 1 dont on a parlé la semaine dernière. On avait entendu « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. » Alors on pourrait dire en paraphrasant « Heureux est l'homme qui suit le chemin du juste, le seul juste qui est le Christ, qui se plaît dans son enseignement et qui, jour et nuit, donne de lui-même. » Et ce serait en quelque sorte la conclusion pour nous de ce bonheur et ce paradis promis par le Christ dans l'évangile de Marc.
Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Comme le temps nous le permet, nous pouvons échanger avec notre conférencier du soir. Alors n'hésitez pas à poser des questions, à demander éventuellement des éclaircissements ou à ouvrir un peu les choses. Donc à vous la parole, il y a un micro si nécessaire. Le temps de vous laisser réfléchir, je vais peut-être poser la première question. Est-ce que le contexte de rédaction de l'évangile, difficile pour les chrétiens, n'aurait pas invité justement un évangéliste à les requinquer en parlant beaucoup de joie? C'est un peu psychologique ma question, plus qu'exégétique, mais est-ce que justement, vu que la situation était complexe, est-ce que c'était pas le moment de dire que cette bonne nouvelle c'était vraiment le banquet, la joie, pour les réconforter? On aurait peut-être pu s'attendre à ça, ou alors que c'est peut-être Marc qui finalement a même dépouillé son propre évangile de cette joie trop terrestre? Je sais pas. Ça va être super dur de répondre, je pense.
Il me semble, merci pour la question parce qu'elle est intéressante. Il me semble précisément que l'évangéliste peut rejoindre la communauté par ses descriptions du dépouillement de Jésus, c'est-à-dire la fragilité ou le contexte de peine des chrétiens de Rome n'est pas finalement une situation anormale, puisqu'elle rejoint, et l'évangéliste invite les chrétiens à faire cette expérience-là, que le Christ lui-même a vécu une forme de dépouillement, une forme de fragilité identique à celle qui vivent. Et donc, en leur présentant un Messie qui souffre, en leur présentant des disciples qui ne comprennent pas, en présentant un refus ou des pleurs, finalement, il leur permet d'entrer dans l'intelligence de ce qu'a été la démarche même de Jésus, même si ce n'est pas tout à fait la fin. On a vu qu'il y a quand même quelque chose après.
Ah ben merci, très bien. La réponse était facile, visiblement. Je suis tout à fait d'accord. Alors à vous la parole, n'hésitez pas.
Je voudrais dire un grand merci à Emmanuel pour la richesse, pour l'inattendu, pour l'humour. Merci. Moi, j'ai été particulièrement sensible à ce que vous avez dit du jeune homme riche. Plein de bonne volonté, mais il s'en va tout triste, incapable de se dépouiller. Et il me semble que ça nous renvoie au fait que le dépouillement, généralement, il ne peut pas venir de nous. C'est le dépouillement que Dieu accomplit. Et vous avez ajouté que seul Dieu est capable de se dépouiller avec l'incarnation, avec le Philippiens 2 et avec la croix. Je trouve que c'est vraiment des choses qu'on a besoin d'entendre et de réentendre. Donc, merci.
Merci d'insister là-dessus. Je crois que ça donne aussi, et c'est important pour nous dans notre expérience quotidienne, ça donne une valeur toute particulière aussi à tous ceux qui parmi nous connaissent une forme de souffrance, de maladie, ou une forme d'impossibilité d'accomplir ce qu'ils ont à accomplir. On pourrait se dire finalement, notre société, le pape le dit souvent, une société du déchet a tendance à mettre de côté ces gens qui ne sont pas immédiatement utiles, pas immédiatement, qui n'apportent apparemment pas de valeur ajoutée. Et voilà que précisément, ces gens qui sont dépouillés de leur capacité d'action, sont dépouillés parfois de leur capacité à agir tout simplement, à bouger, parfois même à parler, eh bien, ils acquièrent pour nous chrétiens une dignité incroyable parce que quelque part, ils rejoignent ce que nous sommes invités à faire, que nous avons bien du mal de faire. Alors eux le font parce que la vie et les circonstances les y obligent, mais ils sont pour nous véritablement un exemple au même titre que la petite graine ou les petits enfants. Et donc le soin que nous pouvons avoir pour eux, il dit aussi cette admiration que nous pouvons avoir parce que eux connaissent le dépouillement et ils nous invitent à le constater et à entrer nous-mêmes qui nous sentons riches dans ce dépouillement.
Merci Emmanuel, c'est très intéressant. Pas facile l'évangile de Marc, effectivement, pour parler du bonheur. Mais pour faire le parallèle avec cette femme qui met le parfum, je pense que c'est peut-être pour nous aussi des actes de foi qu'on doit faire tout au long de notre vie pour peut-être atteindre aussi ce bonheur comme cette femme qui met le parfum sur Jésus et nous, peut-être de... pendant notre vie, de se dépouiller, de faire du bien, mais surtout de faire des actes de foi. Et peut-être que Marc veut peut-être nous dire que le paradis, ben après tout ça, ben c'est le Christ. Donc le bonheur, ce sera malheureusement la mort après, mais la résurrection est d'être, le bonheur d'être avec le Christ. Enfin, moi je le vois un peu comme ça, c'est... Le bonheur, ce sera le Christ.
Oui, le bonheur, c'est le Christ. On est complètement d'accord, puisque source de tout. Enfin, oui. Il y a deux choses peut-être sur lesquelles je voudrais rebondir. La première, c'est que Jésus dit, c'est aussi dans l'évangile de Marc, hein, « Nul n'aura quitté père, mère, sœur, frère, sœur, sans recevoir au centuple dès cette vie une mère, des frères, des sœurs, avec des persécutions. » Il y a déjà, on peut goûter déjà dans cette vie ce bonheur de la vie éternelle. Si le bonheur c'est le Christ, on peut être attaché au Christ dès maintenant. Et c'est pas seulement un bonheur à venir, c'est sans doute un bonheur à venir, mais c'est un bonheur qui est accessible dès aujourd'hui. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième, par rapport au geste de cette femme, le Christ dit, elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Et c'est le Christ. Alors on ne sait pas quelle était la motivation de cette femme, qu'est-ce qu'elle a voulu faire. On ne connaît pas son intention, mais Jésus, quelque part, assume ce qu'elle a fait et lui donne un sens plénier. Et je crois que c'est peut-être l'invitation nous-mêmes de faire ce que nous pouvons, parce que notre cœur nous dicte ça, parce que notre attachement à Jésus nous le dicte, et puis laisser le Christ assumer ce que nous avons fait pour lui donner tout son sens. J'aurais fait ce que j'ai pu, mais le Seigneur est capable de donner un sens plus grand et plus beau à ce geste que j'ai fait, peut-être sans trop le savoir.
Mon Père, l'évangile de ce jour, je crois qu'il est de Saint Marc. Et la transfiguration et la réaction de Pierre. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit commentaire? Est-ce qu'il n'y a pas un grain de bonheur dans les propos de Pierre qui voudrait dresser trois tentes?
Oui, si on recherche les occurrences du mot bon, bien, beau dans l'évangile de Marc, on tombe effectivement dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est bon que nous soyons ici. C'est Pierre qui dit ça au Christ, il est bon que nous soyons ici parce que nous contemplons dans Jésus transfiguré, finalement, nous faisons une expérience de vie en contemplant Jésus ressuscité. Il y a une vraie expérience de bonheur dans ce que vivent Pierre, Jacques et Jean sur la montagne devant Jésus transfiguré. Et pourtant, ce temps-là n'est pas invité à durer. C'est-à-dire que Pierre voudrait bien dresser trois tentes, c'est-à-dire que demeurer dans ce bon et ce beau qu'il vit, et pourtant il faudra bien redescendre de la montagne, retrouver Jésus seul, quitter la compagnie de Moïse et d'Élie, et repartir dans l'existence plus quotidienne. Retrouver Jésus seul, sans cette lumière qui transparaissait de son être. Alors, je dirais simplement deux choses, c'est qu'on a besoin, et sans doute que c'est ce que le Christ a voulu faire, à travers la transfiguration, on a besoin de ces moments-là, de bon et de beau, qui nous aident à vivre dans le quotidien. Mais ces moments de beau et de bon, ils ne sont pas appelés à durer. Mais nourrissons-nous-en quand ils nous viennent et qu'ils puissent nous porter. On espère que ces moments-là ont pu porter les apôtres par la suite.
Merci beaucoup pour cette très belle conférence. Je voudrais revenir sur le geste de la femme qui a versé ce parfum sur la tête de Jésus. C'est un peu le signe du parfum qui est signe d'une gratuité. Finalement, ce geste, elle le fait de manière totalement gratuite. Ça ne sert à rien. Et j'aime faire ce parallèle, en fait, entre ce geste et la vie consacrée. Elle donne tout ce qu'elle peut. Elle donne tout. Et c'est un signe un peu d'une vie qui est toute donnée au Christ. On n'est pas là pour nécessairement être utile. Il y a cette gratuité. Et le parfum a un synonyme aussi. On parle d'un absolu. Donc... voilà, je voulais simplement un peu témoigner de cela. Et peut-être que ça peut nous dire aussi que avoir la foi, finalement, c'est pas simplement être acteur en Église, c'est important, la pastorale, c'est très important, mais l'Église, elle est là pour aimer Jésus, pour dire que Jésus, il est tout, et le faire aimer à tous ceux qui ne le connaissent pas. Voilà.
J'ai rien à ajouter parce que ça redit bien effectivement cette conviction-là. Dans l'union, il me semble, hein, ce que j'essaie de dire, dans l'union entre ce don gratuit à Dieu et puis ce souci du pauvre que le Christ nous permet d'associer.
Alors moi j'ajoute quand même un truc. La prophétie se réalise parce que je crois que Jésus, j'ai pas le verset en tête, dit on parlera encore de cette femme, comment c'est ? Ben on le fait ce soir.
Père Emmanuel, je voulais simplement vous dire que ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est lorsque vous avez fait ce rapprochement entre le parfum qui devient un peu l'onction et l'onction du baptême. J'ai trouvé ça très très intéressant et ça m'a évoqué autre chose. On dit que c'est dans le baptême, donc dans cette onction, qu'on rencontre le Christ. Et c'est à ce moment-là qu'en fait on meurt et on renaît avec le Christ. Un peu comme lorsque le Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, symboliquement il est tombé dans l'eau, il est dans l'eau, dans la mort, et il sort de la mort, il ressuscite. Alors je me suis demandé si finalement c'était pas une façon de dire, voilà, avec cette eau, c'est le parfum, donc c'est pas n'importe quelle eau, hein, quel type d'eau, cette femme a en fait rencontré le Christ. Et on n'en entend plus parler du tout, parce que nous tous, nous sommes ceux qui sont baptisés, nous aussi nous faisons notre vie, nous mettons du parfum sur la tête du Christ, parce qu'on vit en lui, on meurt avec lui, on renaît avec lui, et puis nous disparaissons. Et vous avez parlé après de la transfiguration. J'ai fait cette espèce de lien, parce que la transfiguration, c'est l'illumination, c'est voir. Et je me suis rappelé, parce que je suis en train de faire des recherches un petit peu là-dessus, c'est que au deuxième, troisième siècle, quand on allait baptiser des gens, on appelait ça l'illuminandi, hein, ceux qui allaient être illuminés. Et chose extraordinaire, ils sont illuminés parce qu'ils vont se rapprocher à ces trois femmes qui sont allées au tombeau du Christ et ne l'ont pas trouvé. Et c'est une façon de dire, ben, tu vois, tu avais la trouille de mourir, ben, comme le Christ t'es sorti de là. Alors je vous dis merci parce que effectivement ça m'a fait comprendre, moi qui connais absolument rien de l'Évangile, qu'il y a plein de choses qui sont vraiment toutes essayées les unes aux autres. Merci de tout cœur.
Oui, alors je ne sais pas, parce qu'il y a un spécialiste de liturgie dans notre église ce soir, mais je ne sais pas si l'onction de crème peut être mis en rapport avec l'ensevelissement du baptisé, sans doute pas forcément, en tout cas c'est pas le sens qu'il a toujours pris, mais voilà.
Merci Père Emmanuel pour cette conférence. J'ai cru comprendre dans l'évangile de Marc, pour reprendre une continuité dans la joie, malgré la problématique de la trouver, à partir de la personne qu'on est qui peut recevoir la parole et être dans la joie. Est-ce vraiment la vraie joie, la joie spirituelle? Je crois que l'Évangile nous donne un peu la clé par le dépouillement, de façon à recevoir la véritable joie de l'Esprit-Saint. Et je pense qu'il y a une gradation et que dans cet évangile, c'est un peu la direction et le chemin pour se mettre justement à la suite du Christ dans cette espérance de la joie complète. Qu'en pensez-vous ?
Oui, il y a sans doute une mise en garde contre la fausse joie, qui serait une fausse joie qui vient du monde, la fausse joie du banquet d'anniversaire d'Hérode, la fausse joie des prêtres qui pensent bien faire en livrant Jésus. Et effectivement, échapper à cette joie facile, qui est la joie superficielle que bien des éléments dans notre monde peuvent nous proposer, c'est ce chemin-là aussi, je crois. À travers la douche froide du début, c'était ça quelque part. C'était d'évacuer cette joie d'un moment, cette joie superficielle, cette joie qui flatte peut-être les sens, mais qui n'est pas la joie vraie. Tout à fait.